Apocalypse 2, verset 24. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Chers amis, la quatrième des sept églises de l'Apocalypse dont il est fait mention dans ces deux chapitres. On a dit beaucoup de choses, nous allons essayer de ramener en quelques points essentiels ce que nous avons à retenir, ce que nous pouvons retenir. Pour nous dire que dans les quatre dernières églises, il y a un grand changement dans la présentation du sujet. Une de ses caractéristiques, c'est que nous avons la venue du Seigneur pour les quatre églises. La venue du Seigneur que nous attendons du ciel. Cela prouve que chacune de ces quatre églises se situe dans le temps, à partir du moment où les choses ont commencé, au VIe siècle notamment, pour Thyatire, le romanisme, à partir du VIe siècle jusqu'au moment où le Seigneur va venir pour régler ses comptes, d'une part, et pour enlever les siens, ses bien-aimés, à sa rencontre sur la nuée. À Thyatire, nous avons une femme, une des trois femmes du Nouveau Testament dont l'Écriture nous parle et qui sont chacune d'elles présentées comme un symbole d'une condition. Nous avons d'abord la femme dans Matthieu 13 qui introduit du levain de manière cachée dans la pâte. Nous avons alors cette Jézabel, cette prophétesse, femme fatale, sanguinaire, cruelle, malgré ses beaux atours. Et enfin, on le sait, mais nous n'allons pas développer cela, nous avons la femme liée à celle-ci, qui est toute parée d'or, de pierres précieuses, et qui remplit un rôle considérable à la fin du temps, surtout lorsqu'elle sera assise sur la bête. Élément que ceux qui ont lu un peu la parole de Dieu peuvent aisément comprendre. Nous n'allons pas être longs. Rappelons que, avec Jézabel, nous avons donc l'introduction d'une prophétesse dans l'Église. Une femme qui est sortie de son rang, de son rôle, et qui joue un rôle extrêmement néfaste. Et le nom de Jézabel est bien significatif. Il y a des personnages dans l'Écriture qui entraînent derrière eux un sillage de choses redoutables, de choses que Dieu condamne avec la dernière sévérité. Et si nous évoquons le nom de Jézabel, quand nous avons lu un peu son histoire dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une reine. Elle veut absolument jouer ce rôle dominateur sur son mari, sur son royaume, sur la religion. Ne craignons pas de mettre à mort les prophètes de l'Éternel, souillant ses mains du sang des prophètes d'une femme abominable. Vous savez, j'ouvre une toute petite parenthèse. Quand Jean va voir cette femme, au chapitre 17 de l'Apocalypse, qui est liée à celle-ci, qui est le prolongement de celle-ci, il est tout étonné. Je suis saisi d'un grand étonnement. Pourquoi ? Il n'y avait pas lieu pour Jean d'être saisi d'étonnement en pensant à la persécution dont les croyants étaient l'objet de la part de l'Empire. Nous savons bien cela par l'histoire. Les croyants étaient considérés comme des marginaux, refusant de rendre l'hommage aux empereurs et par conséquent attirant sur eux la réprobation de l'Empire. Ce n'était pas étonnant pour Jean de réaliser que le sang des saints coulait dans ces jours-là. Il était lui-même répudié à l'île de Patmos, c'est-à-dire déporté à l'île de Patmos. Pourquoi Jean est-il étonné? Eh bien, c'est très simple, c'est de penser que les croyants, les fidèles témoins du Seigneur, allaient être les objets d'une haine implacable et d'une martyrologie incroyable de la part de cette femme religieuse. C'est cela qui étonnait Jean. Eh bien, cette femme, dans l'Apocalypse, chapitre 2, nous le terminons avec cette petite mention pour refaire non pas seulement le cadre, mais le schéma. Il y a trois choses qu'il faut considérer. Le Seigneur se présente d'abord comme le Fils de Dieu, pas le Fils de Marie, le Fils de Dieu. Et notre frère a rappelé très opportunément ce matin que dans l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur, en réponse à la question de Pierre, qui a affirmé qu'il était le Fils de Dieu, va annoncer sa relation étroite avec l'Église qu'il s'associe, avec laquelle il forme un. Vérité qui sera développée plus tard. Mais sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et ce n'est pas étonnant qu'ici, c'est comme Fils de Dieu qui bâtit sur ce roc l'assemblée, qu'il se présente pour montrer les droits qu'il a sur elle, la relation qu'il a établie avec elle et sur laquelle il ne revient jamais. Et nous sommes toujours responsables des privilèges dans lesquels nous avons été établis. Nous ne devons pas oublier cela. C'est pourquoi, excusez encore cette petite digression, les frères sont bien plus responsables que d'autres chrétiens dans la maison de Dieu. Parce que, quoi qu'on en dise, et quelle que soit l'appréciation que l'on en ait aujourd'hui, bien fâcheuse sans doute, profondément regrettable de la part de personnes instruites et qui auraient dû être l'exemple de la soumission et de l'intérêt que l'on porte au don de Dieu qu'il nous a fait au siècle dernier. Nonobstant cela, chers amis, nous répétons que les frères seront tenus responsables d'avoir été les princes de la maison de Dieu. C'est une expression que notre frère Louis Chaudy employait. Nous sommes des princes dans la maison de Dieu. Et Dieu ne va pas nous considérer comme de vils serviteurs, de vils esclaves, peu au courant des dispositions de leur maître. Mais nous allons rendre compte, chers amis, en raison de la proximité dans laquelle nous avons été introduits et de l'abondance des privilèges que Dieu nous a donnés et avec lesquels aujourd'hui vous avez l'attitude que l'on sait. Nous n'en allons pas plus loin. Alors, le Seigneur fait donc des reproches à cette assemblée, s'adressant à l'ange. On a beaucoup parlé de l'ange, partie responsable de l'assemblée. Vous savez, faut-il le répéter, jamais nous n'avons vu dans la parole de Dieu qu'un homme soit compétent pour adresser un message à un ange. On ne voit jamais cela. Mais toujours l'inverse. Donc ici, il y a un langage symbolique qui nous permet de penser que l'ange n'est pas une autorité angélique céleste à laquelle un homme s'adresse pour lui donner une communication. Donc quelque chose qui ne joue pas là, parce que jamais nous ne voyons cela. Mais l'ange est celui, l'organisme qui représente une autre chose. Et c'est ainsi que les croyants dans le livre des Actes parleront de Pierre en disant « Il frappe à la porte, on entend qu'il frappe à la porte, et ils diront « Mais ce n'est pas lui, c'est son ange. » Il pouvait avoir un ange en rapport avec Pierre, mais nous ne trouvons pas que nous ayons à donner des ordres, des indications aux anges. C'est toujours l'inverse. Donc cet ange, c'est la partie responsable de l'assemblée qui peut être identifiée de manière assez voisine, sans doute, avec les anciens. On en a beaucoup parlé, nous n'allons pas revenir sur ce sujet qui nous a occupés, qui est sans doute à sa place important, mais qui nous éloignera un peu trop de notre sujet. Alors, il y a plusieurs éléments, avant de m'asseoir, qu'il faut retenir. D'abord, cette femme funeste qui règne en maître et qui se présente de telle manière qu'elle est séduisante, ce n'est pas Sardes qui va amputer bien des vérités de la parole de Dieu. Elle, au contraire, elle en ajoute. Elle a puisé dans le paganisme, elle a puisé dans le judaïsme, même au point d'en revêtir les oripeaux. Elle a ajouté à la vérité toutes sortes de choses qui la défigurent. Mais la vérité, les vérités essentielles, les a maintenues. Le Seigneur la reprend donc à l'égard de l'enseignement funeste de cette femme. Et nous apprenons, en lisant cette lettre, qu'il y a plusieurs catégories de personnes. D'abord, il y a des enfants. Des enfants que cette femme a enfantés dans ce domaine de l'idolâtrie. A donc une famille. Et en même temps des esclaves du Seigneur dans ce milieu. On en a parlé beaucoup ce matin. Dieu a permis que nous ayons un grand nombre de croyants dans ce milieu, peu éclairé sans doute, mais Dieu connaît ceux qui sont siens. Et quel bonheur pour nous, il s'agit de savoir seulement que un regard sur le serpent d'airain suffisait pour être sauvé. Dieu connaît ceux qui sont siens. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il peut arriver que quelqu'un soit pauvre spirituellement et qui ne s'élève pas à la hauteur de la rédemption qui a été accomplie au prix de l'œuvre de Christ et qu'il ait seulement la possibilité d'acquérir une poignée de fleurs de farine sans qu'il y ait du sang. C'est très important cela. Cela se limite à quelqu'un qui voit Christ mourant sur la croix. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il ne va pas plus loin. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui était pauvre, qui ne pouvait pas atteindre à une victime qui était prescrite, il offrait une poignée de fleurs de farine, à condition qu'il soit pauvre. Comme ici, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et ce n'est pas à nous à établir la quantité ni la qualité de ceux qui seront avec nous, le Seigneur les connaît. Donc, à côté de sa famille, de ses enfants, qui participent intelligemment à ce système, qui en sont le soutien, qui en sont les administrateurs, tous ceux qui l'affirment dans ce monde, il y a des esclaves. Le Seigneur a des esclaves, c'est-à-dire des croyants simples et qui, entraînés par cette religion, ont admis le système. Parce que l'homme est religieux. L'homme est foncièrement religieux. Il suffit de passer devant une église. Un samedi soir, par exemple, dans une grande ville, on passe devant un édifice religieux, on est forcément étonné de voir le flot des gens qui sortent de l'église. Sans doute, ils ont des conceptions sociales bien différentes, mais on est étonné, chers amis, du sentiment religieux qui anime les gens pour les introduire dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de véritable athée, au fond. Mais passons. Nous avons dit, il y a ses enfants, il y a ses esclaves, et puis il y en a d'autres, plus intelligents, qui souffrent au sein de ce milieu, ou de la part de ce milieu. Et que l'on répute étant dans le milieu comme ceux qui appartiennent aux profondeurs de Satan. Voilà un exemple très important de l'appréciation que cette femme éprouve à l'égard de ceux qui refusent de participer à son système. Et aujourd'hui, dans l'enceinte de l'écuménisme, quoi qu'il en soit, Jézabel n'enlève pas un iota de toutes les affirmations qu'elle a faites, notamment dans la mariolatrie. Il ne faut pas espérer que, bien qu'il se présente, ce pauvre Jean 23, comme étant Joseph, qu'il faut accepter, qu'il faut considérer comme un frère que l'on a méprisé. Il ne faut pas croire un seul instant que malgré cette apparence d'humilité, il va commencer à arracher les parages de son rivière. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Donc, ceux qui souffrent dans ce milieu, et de qui on dit, oui, ils sont dans les profondeurs de Satan. Mais à ceux qui sont ainsi appelés, le Seigneur va dire, vous que l'on répute comme étant dans les profondeurs de Satan, c'est à vous que je m'adresse. Et c'est à vous que, avec vous que je lis des relations. Et c'est à vous-même que je fais des promesses. Et nous les avons devant nous.
Le passage qui commence, par où a commencé notre lecture, au verset 24, est un passage effectivement très important. Le fidèle qui est dans ce milieu, dans ces conditions que l'on a décrites, peut-il espérer que ce milieu s'améliore? Peut-il espérer que ce milieu se repente? Peut-il porter sa contribution à l'amélioration de ce milieu? Voilà la grande question qui se pose au croyant qui est dans ce milieu. Et pour que nul n'en ignore, la parole est très claire. Tout d'abord, il nous a été dit au verset 22 qu'elle ne se repentait pas. Verset 21, plus exactement, à la fin du verset 21, elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Ce qui est elle, ce qui vient d'être dit. Quelles que soient les apparences, quelles que soient les dires, quelles que soient les attitudes, elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Les choses sont claires. Mais deuxièmement, qu'est-ce que demande le Seigneur à ceux qui sont fidèles? Et chaque fois qu'il y a un résidu, c'est un signe, un résidu qui dure jusqu'à la fin, un résidu, c'est-à-dire ceux qui sont de reste, ceux qui sont à part, ceux qui sont fidèles parmi les infidèles. Chaque fois qu'il y a un résidu qui reste jusqu'à la fin, comme ici, cela veut dire qu'il n'y a aucun espoir de racheter l'ensemble. C'est pour cela qu'il y a un résidu qui reste jusqu'à la fin. Et donc, ceux qui sont de reste, au verset 24, aux autres, en l'occurrence, aux autres, il s'agit là donc des fidèles qui n'ont pas la même attitude, qui sont les esclaves de Jésus-Christ, que leur demande-t-il? Leur demande-t-il de faire des efforts? Leur demande-t-il d'essayer de réformer le milieu où ils se trouvent? Pas du tout. Il leur demande de compter sur les ressources qui sont toujours là. Ce que vous avez, tenez-le ferme. Sont-ils pour quelque chose dans ce qu'ils ont? Non, c'est la grâce du Seigneur qui le leur a donné. Cela ne peut venir dans un tel milieu, nous le comprenons bien, que les ressources que la vie de Dieu a pu y placer. Ces œuvres que nous avons vues au verset 19, si remarquables et si étonnantes dans un tel milieu, ne peuvent être que l'effet de la grâce de Dieu. Eh bien cela, tenez-le ferme, je ne vous demande pas davantage. Et deuxième chose extraordinaire, il leur parle de quoi? Il leur parle de lui-même, de sa venue personnelle. Parce que c'était effectivement, cette espérance était ce qui manquait à ce milieu. Et nous n'en sommes pas très étonnés. Si nous côtoyons quelques croyants de ce milieu, n'est-ce pas, dans les limites que la parole nous autorise, nous remarquons qu'effectivement, ils sont dans un état de crainte perpétuelle, dans un état de doute quant à leur salut. Ils ont besoin de cette espérance. Nous avons déjà remarqué qu'au verset 19, l'amour et la foi étaient mentionnés. Ressource remarquable que nous avons signalée, l'espérance n'y était pas. Et combien elle manque à ce résidu, effectivement. Le Seigneur la leur promet, la place devant eux, une espérance brillante, l'espérance du retour personnel du Seigneur. Probablement, une espérance qui ne va pas au-delà de la délivrance de la misère dans le cœur de ses croyants, mais c'est quand même l'espérance du retour personnel du Seigneur. Combien notre Seigneur est bon de ne pas tenir compte de la faiblesse de ceux qui lui appartiennent, mais en quelque sorte de répondre à leurs besoins tels qu'il les perçoit et qu'il les connaît. Gardons-nous de mépriser ceux qui sont dans, on l'a déjà dit, et il convient de le rappeler, parce que nous serions peut-être tentés de mépriser le manque de connaissances et de ne pas comprendre, et de ne pas comprendre qu'il reste dans un tel état d'ignorance. Gardons-nous de le faire. Notre Seigneur lui-même ne le fait pas. Relisons ses paroles. « Je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » Ils sont en danger, et comme on l'est dans des cas semblables, en danger de deux choses. La première chose, c'est d'être accablé par la misère qui les entoure, le mal qui les entoure et dont ils souffrent. Nous pouvons penser que des croyants voyant toutes les horreurs qui peuvent se commettre, nous pouvons penser que des croyants, de vrais croyants qui ont la vie de Dieu, souffrent dans un tel milieu. Ils risquent d'être accablés et de perdre la notion de la grâce de Dieu. C'est ce que le Seigneur rappelle, ce que vous avez, ce que je vous ai donné. Parce que nous n'avons rien que le Seigneur ne nous ait donné, rien qui ait du prix que le Seigneur ne nous ait donné. Ce que vous avez, tenez-le ferme. Que les circonstances que nous vivons ne nous fassent jamais perdre de vue ce que le Seigneur nous a donné. Et d'ailleurs, le jugement dont il est question dans ces différentes épîtres aux différentes assemblées est toujours fondé sur ce que le Seigneur nous a donné. Notre responsabilité est directement en ligne avec ce qu'il nous a donné. Ce qu'il ne nous a pas donné, nous n'en sommes pas responsables. Par contre, faire l'acquis de la charge qu'il nous a donnée, garder le dépôt qu'il nous a donné, garder les vérités qu'il nous a données, voilà notre responsabilité. Et le Seigneur aussi nous demandera compte de la façon dont nous avons répondu à ce qu'il a placé devant nous, comme avenir, comme espérance, comme attente, à nous auxquels il a révélé sa venue personnelle, est-ce que nous la gardons ? Pas dans nos têtes, dans nos cœurs. Est-ce que, et je le dis pour moi le premier, est-ce que tous les jours, nous pensons que peut-être le Seigneur interrompra la journée. Est-ce que je me suis mis en règle avec le Seigneur pour tout ce qu'il a pu me demander ? Est-ce que je suis en règle avec lui pour tout ce qu'il peut attendre de moi ? Voilà une grande question. Peut-être que la journée ne se finira pas. Et cela est solennel. Cela est aussi réjouissant, bien sûr. Voyons toujours les deux côtés, car c'est ainsi que le Seigneur le place devant nous.
Deux simples remarques. Ce que vous avez, il ne faut pas oublier, chers amis, que l'Église avait oblitéré la vérité. Et il n'y a pas tellement longtemps, il n'y a pas des siècles, la Bible a de nouveau été ouverte aux fidèles. Mais jusqu'à ces derniers temps, la Bible était scellée et elle ne pouvait être interprétée que par l'autorité établie dans l'Église de Rome et pas du tout trouvée dans les mains des fidèles. C'était un crime si l'on trouvait la parole de Dieu dans les mains d'un fidèle. Et nous n'allons pas donner d'exemple, mais l'exemple qu'il prenait pour soustraire cette parole aux fidèles. Les monitoires, rien que ce mot, ceux qui ont lu un peu, savent ce que nous voulons dire. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire un résidu ? Notre frère a parlé d'un résidu. Et l'occasion est donnée de rappeler cela. Et ça tient en une phrase, c'est un de nos chers devanciers qui dit « Qu'est-ce que c'est que le... Ça veut dire quoi le résidu ? Pourquoi y a-t-il un résidu ? Parce que votre cœur est ce qu'il est. Vous voyez ce que ce frère a voulu dire ? Il y a un résidu, c'est-à-dire Dieu met à part pour lui quelques-uns qui vont maintenir la vérité qui ont été abandonnées par d'autres. Et elle a été abandonnée par d'autres parce que notre cœur, parce que leur cœur est ce qu'il est. Il y a un résidu, quel bonheur d'en faire partie, c'est une grâce et une responsabilité, parce qu'au fond, le cœur de l'homme est ce qu'il est.
Il y a un contraste très marqué entre le verset 23 et les versets qui suivent. En toute chose, il faut considérer la fin, l'issue de Dieu. Au verset 23, le Seigneur dit « Je ferai mourir de mort ses enfants, les enfants de Jézabel. » Ce sera le jugement, un jugement définitif, inexorable. Et il est ajouté « Toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les cœurs. » Toutes les assemblées. Il n'y a pas que Thyatire qui sera témoin de cela, mais toutes les assemblées constateront que Dieu est juste. Et il est ajouté, c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Quand est-ce que le Seigneur donne à chacun selon ses œuvres? Quand est-ce qu'il juge quelqu'un selon ses œuvres? Eh bien, nous l'avons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Ce sont tous les morts qui sont jugés devant le grand trône blanc. Ils sont jugés selon leurs œuvres. Il n'y a pas un seul vrai croyant qui paraît là, nous le savons bien. Et ceci, nous devons aussi le dire et reconnaître que Dieu est juste en agissant ainsi. Et il protège, il conserve tous ceux qui ont mis leur confiance en l'œuvre de Christ, dans le salut par grâce qui leur a été offert et qu'ils ont saisi par la foi. Donc, nous voyons là l'issue pour de tels, c'est le jugement inexorable du Seigneur. Et alors les autres, qui sont bien distingués de la masse professante, idolâtres, corrompus, et ils sont là, dans un tel milieu, est-ce possible? Eh bien nous voyons quand l'apôtre Paul montre toute la grâce et la miséricorde de Dieu à l'égard d'Israël, en Romains 11, nous voyons qu'il retient toujours ce résidu qui est l'objet de la grâce de Dieu. Et dans les temps les plus sombres, et il est fait allusion à cette période très sombre de l'histoire d'Israël, il y a un Élie qui est là pour Dieu. Un Élie sans doute qui montre une défaillance, pensant qu'il était tout seul. Néanmoins, sa position de fidélité est tout à fait à retenir par chacun de nos cœurs. Il est là face à une masse idolâtre qui s'était détournée du vrai Dieu, de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Eh bien, il est là tout seul et il voit l'unité du peuple de Dieu. Il construit son autel de 12 pierres et le feu descend du ciel. Un homme qui répond à la pensée de Dieu et Dieu qui répond à une telle foi. Et nous savons comment Dieu l'a utilisé, le bien du peuple, pour tourner leur cœur vers l'Éternel et reconnaître que le Dieu d'Israël est vraiment l'Éternel. Et puis, Dieu doit rappeler à Élie qu'il croyait qu'il était seul, qu'il y avait aussi des témoins, un résidu caché dont Dieu avait pris soin, qu'il avait compté. Le compte nous est donné, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et cela était, sans aucun doute, avec moins d'énergie qu'Élie, agréable à leur Dieu. Dieu se plaît à les souligner. Par contre, il y a un troisième cas d'un homme qui vivait en ce temps-là et l'Esprit de Dieu ne le retient plus. Dans Romains 11, nous voyons dans un roi 18 qui était cet homme, c'était Abdias. Il nous est même dit qu'il craignait beaucoup l'Éternel et qu'il avait caché 100 prophètes de l'Éternel devant la cruelle et sanguinaire Jézabel, lui qui était préposé à la cour d'Akab. Eh bien, il avait saisi une occasion sans doute qui lui avait été offerte de protéger ses prophètes de l'Éternel. Cependant, il avait une position ambiguë. Et il n'était pas un vrai témoin tout en craignant beaucoup l'Éternel. La preuve, c'est qu'il tremble aussi devant les paroles d'Élie qui le charge d'un message pour Akab en lui disant qu'il allait à sa rencontre. Il n'ose pas y aller, sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Eh bien, ce témoin-là, qui a peur devant les rigueurs d'Akab et de Jézabel, est disqualifié pour ainsi dire. Et tout cela nous parle de ces autres qui ont des attitudes diverses au sein de cette Thyatire. Toutefois, le Seigneur les connaît. Le Seigneur, c'est toujours vrai, c'est une pensée consolante dans tous les temps de ruines, que le Seigneur connaît ceux qui sont siens. C'est toujours vrai, c'est le côté de Dieu. Mais notre côté, notre responsabilité, c'est de nous séparer. Ils se retirent de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Nous n'avons pas prononcé le nom du Seigneur en vain. Gardons-nous de l'avoir toujours sur nos lèvres et jamais dans notre cœur. Ceci est tout à fait sérieux. Prononcer le nom du Seigneur, c'est reconnaître ses droits sur nos cœurs, ses droits sur le cœur de son assemblée aussi, quand nous sommes réunis en assemblée. Le Seigneur a la place centrale, en tout cas, qu'il en soit ainsi pour le bien des assemblées. Et à ce moment-là, là où est l'esprit, là il y a la liberté. Le cœur peut s'ouvrir. Et ce sont sans doute les moments les plus bénis que la grâce de Dieu peut nous conserver quand, sous la direction du Saint-Esprit, réunis autour du Seigneur, nous exaltons sa grâce, en attendant de le faire dans la gloire pendant l'éternité. Que ces autres-là parlent aussi à nos cœurs. Ils ont quelque chose qui est beau à Dieu dans leur attitude. Et le Seigneur s'occupe d'eux avec beaucoup de soin. Nous voyons qu'ils ont été méprisés de la part de la masse apostate, sans aucun doute. On peut penser aux albigeois, aux vaudois, qui peut-être avaient des erreurs, sans doute, mais qui ont eu de la fidélité, qui ont laissé leur vie pour le Seigneur. Le Seigneur relèvera en son temps ce qui a été fait jusqu'à la mort dans l'obéissance à sa pensée, à sa volonté. C'est toujours vrai que nous avons à être fidèles jusqu'à la mort. Et il y aura une couronne pour l'encouragement du vainqueur. La récompense n'est jamais un but en soi. Elle nous est donnée comme un encouragement pour ceux qui ont vaincu. Il y aura une marque à travers cette couronne de l'estime du Seigneur pour celui qui a remporté telle ou telle victoire dans des circonstances difficiles où il y avait de l'opposition. En un sens, l'occasion qui nous est offerte sur cette terre est unique. Nous ne la retrouverons plus dans le ciel. D'être fidèles au Seigneur alors que nous avons à payer le prix, alors que cela peut nous coûter quelque chose. Pour certains, cela leur a coûté la vie. Mais ils ont préféré mourir que d'être infidèles au Seigneur. Puissions-nous nous attacher à celui qui est le Fils du Dieu vivant, qui sait tout ce qui se passe dans une assemblée, qui sonde les reins et les cœurs. C'est vrai pour nous aussi, croyants, ils sondent nos reins et nos cœurs. La preuve, c'est le verset du jour que nous avons dans nos calendriers. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin. Et conduis-moi dans la voie éternelle. » Voilà la demande d'un homme qui savait qu'il ne pouvait pas échapper au regard scrutateur de celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Tout est sondé, mis à nu, mis à découvert dans la présence du Seigneur. Et nous sommes très heureux lorsque nous sommes d'accord avec le Seigneur, y compris pour condamner ce que lui condamne dans nos vies. C'est le commencement de la restauration, c'est la repentance. Et lorsque nous sommes en chemin dans une telle voie, eh bien le Seigneur ne peut que nous bénir. Et nous sommes aussi en aide à d'autres qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur, qui l'invoquent d'un cœur pur, car ceux-là vont se retrouver dès qu'ils se sont séparés des vases à déshonneur, qu'ils se sont retirés de l'iniquité, qu'ils ont fui les convoitises de la jeunesse, ils vont retrouver ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Au début de l'Église chrétienne, il n'était pas besoin de dire qu'il fallait un cœur pur. Il nous est dit tout simplement que ces croyants étaient un cœur et une âme, et nous comprenons fort bien cette expression. Mais quand les temps de ruine sont là, le Seigneur précise les choses et il nous dit qu'il s'agit de l'invoquer d'un cœur pur. Et alors de telles recherches, nous le voyons dans 2 Timothée 2, ils recherchent la justice, la foi, l'amour, la paix. Voilà, la justice en premier, l'amour vient en troisième position. Dans les temps de ruine, il en est ainsi. Il n'est pas oublié, il a toute sa valeur. D'ailleurs, à Thyatire, il y avait ce qui était le fruit de l'amour et de la foi en pleine activité avec la patience de la foi. Ces vertus cardinales de la vie chrétienne s'exprimaient au sein de cette assemblée malgré toute la ruine et la corruption qui s'y donnaient libre cours, aussi bien que la violence, puisque cette église a les mains rouges du sang des martyrs, sang qu'elle a fait couler. Que Dieu nous accorde d'être fidèles alors qu'il peut en coûter quelque chose aujourd'hui comme toujours.
C'est la première fois donc que dans cette église il est question du retour du Seigneur et le Seigneur leur parle. Mais on peut noter dans les différentes églises où il est question du retour du Seigneur, dans Thyatire, la chose est présentée d'une façon moins intime que dans Philadelphie. Et dans Sardes, le retour du Seigneur, nous le verrons, est présenté « Je viens sur toi comme un voleur dans la nuit ». C'est un avertissement. Ici, il y a quand même un enseignement. Peut-être tout à l'heure, à la fin de la réunion, on a cité quand ce qui est dit, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Tenir ferme ce que le Seigneur nous a donné jusqu'à ce qu'il vienne. La dernière parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Marc, dans son service public, c'est ce que je vous dis, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Et c'était ses derniers mots de son service public. Veillez pour l'attendre. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, dans cette parabole de cet homme noble qui s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir, ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines, chapitre 19, versets 12 et 13, et il leur dit « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne ». Luc 19, versets 12 et 13. « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne ». Le Seigneur nous a confié un service, il nous a confié une responsabilité, quelque chose à mettre en valeur pour lui, trafiquer jusqu'à ce que je vienne. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, quand Pierre pose la question au Seigneur à propos de Jean, et il lui dit « Mais celui-ci, que lui arrivera-t-il » Le Seigneur répond, chapitre 21 de Jean, au verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et nous avons là encore une autre indication de quelque chose que nous avons à faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne le suivre. Jusqu'à ce qu'il vienne, toi, suis-moi. Et ce matin, on a fait allusion à 1 Corinthiens 11, nous annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et peut-être là encore, il y a ici dans cette pièce, cette salle aujourd'hui, quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui lui a donné son cœur, qui désire le suivre, qui désire peut-être le servir, et puis qui n'a pas encore désiré se souvenir de lui. Et pourtant il nous l'a demandé, se souvenir de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Dans la récompense qui est présentée dans notre chapitre, pour celui qui vaincra, c'est tout en rapport avec la position que l'église de Thyatire a voulu prendre. Elle a voulu dominer sur le monde et elle a dominé sur le monde à un moment donné. Eh bien, la récompense du vainqueur, qui a été peut-être quelqu'un qui a connu la mort, le gibet, à cause de sa foi, à cause de l'inquisition peut-être, la récompense du vainqueur, victime de cette église qui a voulu dominer, celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et cette récompense en rapport avec le royaume. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, il est dit au verset 15 du Seigneur, « Lui les pètera avec une verge de fer dans ce royaume. » Et ceux qui ont été ainsi méprisés, mais qui ont gardé les œuvres du Seigneur, mes œuvres jusqu'à la fin, il les honorera dans son royaume. Mais ils auront aussi une part spéciale, on l'a déjà relevé. Je lui donnerai l'étoile du matin, comme un secret dans son cœur. Et vous avez remarqué que dans chaque récompense, que nous avons lu et que nous lirons encore. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que dit le Seigneur. Sa satisfaction, combien il est heureux de dire au vainqueur, à celui qui va vaincre, « Je lui donnerai ». Il ne va pas le laisser donner. Cette récompense, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la donner au vainqueur. C'est le maître lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui va lui donner cela. « Je lui donnerai l'étoile du matin ». Cette étoile de matin dont il est question dans l'épître de Pierre, et cette étoile du matin dont il est question aussi à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, quand le Seigneur dit « Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je lui donnerai l'étoile du matin, cette espérance. » Mais qui sait cette espérance? C'est celui qui dit « Moi, je suis l'étoile du matin. »
Dans le livre des Actes, nous voyons Lydie, une marchande de pourpre, qui est de Thyatire, une ville donc qui a son commerce, son activité, vouée à tout ce qui touche la gloire et la gloire dans le monde. Eh bien, dans cette ville, on a parlé de l'église multitude, de l'église organisée, instituée, qui a grandi, qui est devenue une grande maison dans laquelle tous les oiseaux des cieux viennent faire leur nid. Et il s'agit de, et nous voyons dans Babylone la Grande, tous les grands, tout le grand commerce international s'attache à la fausse religion, qui en est un, comme un vecteur pour participer à ce grand courant de l'opulence du monde, un monde qui, au demeurant, est très opulent d'un côté et très pauvre de l'autre. Mais revoyons cette ville même, Thyatire, une localité dans cette région en Asie, une localité dans laquelle se trouvent des croyants par qui, dont une partie s'est associée avec Jézabel, comme Akab en son temps, et pour miner ainsi tout ce qui vient de Dieu dans l'Église elle-même comme établie sur la terre. Dans cette Église, nous avons vu des esclaves, les esclaves du Seigneur. Et il nous faut bien penser, cela a été évoqué, mais il faut y penser encore, entre nous, à tous ces esclaves qui aiment le Seigneur parce qu'ils lui appartiennent et qui sont menés à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et nous pouvons attester que tout véritable croyant qui participe à ces œuvres, ne fût-ce que dans ces fausses doctrines, en participant à ce prétendu sacrifice de la messe, eh bien, il est ainsi associé à des formes d'idolâtrie. Tout croyant véritable qui se trouve dans ce contexte, que ce soit le catholicisme ou ce qui en fait le pendant dans les pays de l'Est, eh bien, il participe à cette idolâtrie. Mais dans cette ville même, et cela nous a été dit, mais il faut bien le voir aussi, quelques croyants, quelques pauvres, un petit groupe s'est séparé, véritablement séparé. Nous ne pouvons pas penser que ceux qui tiennent ce qui est à garder, ceux qui n'ont pas, se sont pas associés à cette idolâtrie, sont encore dans ce milieu. Il n'est pas possible que quelqu'un ait été saisi par l'étoile du matin, que quelqu'un qui est connu, que le Seigneur vient lui-même, reste dans ce milieu. Mais il y a les esclaves, et donc il y a cette séparation dans cette ville même, comme ici à Jumet, il y a bien des croyants qui sont dans ces milieux, qui sont des esclaves du Seigneur, mais associés à l'idolâtrie, à la fornication. Mais il y a un petit résidu, un témoignage. À Thyatire même, à cette époque, dans ce temps-là, il y avait à Thyatire un résidu. Car 30 ans auparavant, ils avaient pu recevoir eux-mêmes cette lettre de l'apôtre dont notre frère Thérade a parlé, la deuxième à Timothée. Et ils ont été amenés à fuir et à sortir. Et pour poursuivre la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ainsi donc, à Thyatire même, dans cette localité, un petit résidu, un témoignage est établi au milieu d'une ruine profonde, mais plusieurs, des vrais croyants, certes, n'ont pas eu le courage de sortir. Certes, ces croyants étaient toujours de Thyatire, pouvaient-ils quitter leur ville géographiquement? Ils étaient de Thyatire, ce témoignage. Mais pour nous, chers amis, qui avons ce privilège d'avoir été mis à l'écart, mis à part de ce milieu, qui avons été éclairés, qui, par le fait d'être séparés, avons reçu dans nos cœurs cette étoile brillante du matin dont Pierre parle aussi. Nous qui savons ce qui va arriver, nous savons que le Seigneur vient bientôt. Eh bien, nous devons toujours penser, et cela devrait être dans nos cœurs, parce que nous sommes un témoignage, parce que nous sommes des témoins à la vérité de Dieu, à l'unité du corps de Christ, penser explicitement dans nos rassemblements, dans nos réunions de prière, à tous ces esclaves du Seigneur qui aujourd'hui sont encore dans l'égarement, qui sont guidés par des conducteurs faux, certes, mais qui les amènent loin de la vérité, les attachant à la terre, les attachant à des fables ingénieusement imaginées, les attachant à ce qui est du monde, et qui n'ont pas la force, le courage de sortir, ou qui n'ont pas encore la lumière. Mais nous devons prier pour de telles âmes. Oh, nous connaissons bien nous avons bien connu un croyant qui avait été quelque peu éclairé par la parole, a fréquenté nos rassemblements, et il aimait la parole, et il était dans le trouble, parce qu'il est retourné dans ce milieu, dans le trouble vraiment, lorsqu'il se trouvait le dimanche dans le sacrifice de la messe. Il était troublé. Voilà un esclave de Dieu, mais qui était enchaîné par Satan lui-même dans ce milieu. Nous devons y penser comme témoin, comme témoignage dans nos assemblées locales. Faute de cela, nous constituerons une dénomination à part. Mais non, ils font partie en quelque sorte, assurément, du corps de Christ. Ils font partie, ils ont leur place en fait dans l'assemblée locale, dans cette expression même de l'assemblée locale qui est le témoignage en un endroit. C'est pour ça qu'il faut y penser et certes cultiver dans nos cœurs ce que nous avons à garder plutôt que ce que nous avons rejeté, car cela sera pour la nourriture de telles âmes. Non, être simple quant au mal, et le mal, l'iniquité qu'il y a dans ces milieux, nous l'avons entendu encore, semble aller grandissante, mais simple quant au mal, peu de connaissance de ce qu'il y a, mais sage quant au bien, ce que nous avons reçu, le cultiver, affermir notre appel, comme le dit l'apôtre Pierre. Cela parce que nous avons cette vocation d'être un témoignage, peut-être dans un certain sens géographiquement, comme si nous étions ces quelques-uns à Thyatire, au milieu de la chrétienté, au milieu de ce qui a le nom de Christ, et à cause de quoi Christ est blasphémé et rejeté par le monde lui-même, car le témoignage de l'Église multitude pousse une âme sincère à se détourner de Christ lui-même. C'est une ruse de Satan. Pensons-y dans nos assemblées locales à tous ceux qui ont leur place dans l'assemblée, dans nos cœurs, pour prier explicitement pour de telles âmes, et qu'elles puissent un jour, si le Seigneur opère, si nous sommes fidèles, pour que le Seigneur amène dans nos rangs, amène des âmes qui ont soif, qui ont faim, pour qu'elles trouvent cette caverne d'Adullam, ce lieu de bénédiction autour du vrai David, ce dont nous jouissons nous-mêmes.
Nous avons remarqué, notre frère l'a fait remarquer, qu'au verset 26, il n'est pas simplement dit, comme on le rencontre dans les autres églises, « celui qui vaincra ». Il nous est précisé « celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin ». Nous avons déjà remarqué, et nous le savons tous, que les œuvres sont un élément très important, un des éléments fondateurs du salut, dit-on, dans cette église romaine. Et l'apôtre et l'esprit, pour que nul n'en ignore, insistent bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'œuvres quelconques qu'il faut garder, mais des œuvres du Seigneur lui-même. Quel caractère ont-elles, ces œuvres? Le premier caractère qu'elles ont, nous le trouvons dans Premier Épître aux Thessaloniciens, ce sont des œuvres de foi. Ce ne sont pas des œuvres pour avoir la foi, ou ce ne sont pas des œuvres pour le salut, ce sont des œuvres qui résultent de la foi, qui résultent de la confiance en Dieu, qui résultent de la vie divine. Ce sont des œuvres qui découlent de la vie dans le croyant. Et deuxièmement, dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons le caractère qu'elles doivent présenter au verset 10 du chapitre 2 des Éphésiens, verset que nous connaissons bien et qui est extrêmement important pour chacun de nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Nous n'avons pas à être des activistes, recherchant à tout prix des œuvres à faire. Nous avons à être dépendants attendant du Seigneur et disponible, dépendant et disponible, nous ne pouvons pas nous permettre de dire au Seigneur, écoute Seigneur, je vois très bien que tu souhaites que je fasse ceci, mais ce n'est pas le moment. Parce que le Seigneur ne frappera peut-être pas deux fois à notre porte, nous montrera peut-être pas deux fois une œuvre à faire. Nous devons être donc à la fois dépendants et disponibles. Pourquoi ? Pour les œuvres que le Seigneur, les bonnes œuvres, que le Seigneur, que Dieu lui-même a préparées à l'avance. Nous ne les connaissons pas. C'est là l'exercice de la foi du croyant. Il attend que le Seigneur le lui montre. Et s'il compte, s'il est droit avec le Seigneur, s'il compte sur le Seigneur, il sera à la fois prêt pour les œuvres et les œuvres seront prêtes pour lui. Ces deux aspects doivent être concomitants. Et le Seigneur les rend toujours concomitants si nous marchons de son pas et si nous cherchons à être à son seul service et non pas à notre service. Nous serons prêts pour l'œuvre préparée et les œuvres seront prêtes au moment convenable pour que nous les accomplissions. Et d'ailleurs, dans la récompense qui est annoncée à Thyatire, nous remarquons qu'il y a une relation justement avec les œuvres. Que cherchait l'Église romaine ? Des œuvres grandes, des œuvres majestueuses, des œuvres... N'oublions pas que Thyatire, ce nom a un sens particulier, c'était la ville de la pourpre. C'était la ville de la pourpre, la ville donc de la pourpre qui était une teinture de grand prix. Donc des œuvres qui ont de l'apparence, des œuvres qui sont grandioses. Et effectivement, elles ont été entourées. Thyatire s'est fait remarquer, justement, l'Église romaine s'est faite remarquer par beaucoup de luxe, par beaucoup d'art, etc. Ce n'est pas cela que le Seigneur cherche pour les siens. C'est des œuvres qui ne mettent pas en avant l'homme naturel. Ce sont des œuvres que la main droite ignore ce que fait la main gauche, comme le Seigneur le dit, qui sont faites dans le secret et pour la seule approbation du maître et non pas pour la popularité, bien sûr. Et donc, le Seigneur dit, eh bien, celui qui fait ses œuvres inconnues, je lui donnerai autorité sur les nations. C'est moi qui suis le vrai dispensateur, c'est moi qui suis celui qui donne la récompense. Et si nous regardons au maître, nous balayerons la rue avec autant de facilité que nous conduirions une armée à la victoire, comme un de nos devanciers le disait.
Donc ces œuvres ont toute leur importance quand nous avons la foi. Et elles sont appelées des bonnes œuvres. Et le Seigneur déclare, ce sont mes œuvres. C'est-à-dire, c'est ce que lui fait, en nous utilisant selon son bon plaisir comme les instruments de sa grâce. L'instrument n'est rien en lui-même. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur fait en nous et par nous. Et il a été souvent rappelé qu'il fait beaucoup plus en nous que par nous. Mais les occasions se multiplieront si nous sommes dépendants d'un tel maître. Il nous les fournira, elles seront disposées à l'avance sur le chemin dans lequel il désire que nous nous engagions à sa suite. Ce qui compte pour un disciple d'un tel maître, c'est qu'il soit comme le maître. Il ne le précède pas, il ne se tient pas à distance, il le suit. Il le contemple, son cœur est attiré par lui, et il va faire comme lui. Et cela constituera le bonheur de son âme. Et en même temps, quand le regard du maître se fixe sur lui, il jouit de son approbation, intime, secrète. Il y a quelque chose de cela dans ces saints de Thyatire. Ils ont secrètement, dans une mesure que le Seigneur connaît, une approbation du Seigneur. Même s'il ne se retire pas de ce milieu-là, si infâme, si révoltant pour le cœur du Seigneur. Mais ils sont là, le Seigneur les maintient, il a besoin de ses témoins. Et leur fidélité, le Seigneur la manifestera en son jour. Alors ces bonnes œuvres, elles sont le produit de la séparation et de l'amour. Ils sont séparés, ces quelques-uns qui vont vaincre là. Ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ils ne sont pas entrés dans l'enseignement de Jézabel, bien qu'ils aient participé effectivement par certaines activités. Mais ils sont séparés du mal quant à eux-mêmes, sur le plan moral. Et il y a là sans doute un dévouement puisqu'il est question des dernières œuvres qui dépassent les premières, un dévouement à la veille du retour du Seigneur que le Seigneur se plaît à relever là, dans cette lettre. Et on peut penser que de tels croyants, eh bien, sont exercés pour se dévouer par amour pour le Seigneur et faire du bien là où l'occasion leur est donnée. Et cela peut aussi nous sonder parce que, ayant de très grands privilèges, les plus hautes vérités qui nous ont été révélées, comment traduisons-nous cela dans la pratique ? Est-ce que l'on voit la vérité en marche dans nos vies ? Est-ce que le Seigneur est honoré dans notre chemin de chaque jour ? Est-ce que l'on peut dire d'un tel que c'est un Christ ? C'est un chrétien. Un frère faisait remarquer, aujourd'hui, il faudrait dire que c'est beau de voir un chrétien chrétien. Au début du christianisme, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, d'où le nom qui leur a été donné. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens de nom, le Seigneur le sait. Et dans quelle mesure nous nous contentons surtout de professions et très peu de manifestations de la vie divine. Ce qui montre comment nous glorifions notre Père. Le fruit est toujours en relation avec ce que Dieu produit dans la vie des saints. Et mon Père est glorifié lorsque vous portez du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Il y a là une croissance. Et ce sont toutes les manifestations de la vie divine qui s'expriment dans la vie d'un croyant. Ne négligeons pas ces bonnes œuvres qui sont produites par la foi, opérantes par l'amour. Et il y a en contraste les mauvaises œuvres et les œuvres mortes, donc qui ne sont pas accomplies par la vie divine. Et un croyant a besoin d'être purifié des œuvres mortes, qu'il peut aussi accomplir, peut-être aussi des mauvaises œuvres. Le chemin est toujours le même, la confession vraie et l'abandon. Celui qui confesse ses transgressions et les abandonne obtiendra miséricorde. Voilà le principe divin. Et le Seigneur voit ses croyants dispersés, isolés très souvent, mais qui vivent secrètement leur foi. Et la récompense leur sera accordée. Il y aura une marque un jour de l'approbation du maître. Cela va bien, bonne et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Peu de choses du côté de l'ouvrier, mais la joie du maître qui donnera cette autorité et une proximité du Seigneur dans cette étoile du matin qui nous parle d'une espérance céleste. Une étoile brillante et l'annonce du jour glorieux de Christ, elle le précède de peu l'apparition du soleil. Dans toute sa clarté, eh bien, cette étoile levée dans nos cœurs, levée dans le cœur des saints qui ont reçu cette révélation de cette vérité de la venue toute proche du Seigneur et d'un très grand prix. Puissions-nous, nous aussi, être de ceux qui jouissent de cette espérance d'être bientôt et pour toujours avec le Seigneur.
Pour des bonnes œuvres, il y a deux mots dans le grec qui nous parlent des bonnes œuvres. Un de ces mots, c'est celui que l'on trouve dans Éphésiens 2, qui a été cité tout à l'heure, pour les bonnes œuvres dans lesquelles nous marchons en elles. Il s'agit d'œuvres qui sont produites par l'état moral, par notre état moral devant Dieu. Et en fait, dans Éphésiens, ces œuvres qui sont là devant nous pour que nous marchions en elles sont la conséquence de la réalisation dans notre vie de notre position en Christ, assis dans les lieux célestes en Christ. Puis le deuxième mot nous parle des œuvres visibles par les hommes. Et nous avons un exemple dans Matthieu 5, quand au verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Quel est le résultat? Glorifier notre Père qui est dans les cieux. Si notre témoignage est clair, eh bien, on saura attribuer à Dieu, au Seigneur, ces œuvres que nous ferons. Et la gloire ne sera pas sur le serviteur, mais sur le maître. Et c'est pour ça que dans notre lettre, il y a celui qui gardera mes œuvres, celles qui donnent la gloire au maître et non pas au serviteur. Il y a peut-être encore une autre chose quant à ces œuvres. Un jour, des Juifs ont posé la question dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, ont posé la question au Seigneur, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Chapitre 6, verset 28, Jean 6, verset 28. « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Et la réponse du Seigneur, Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et n'est-ce pas peut-être pour Thyatire où on parle tellement de faire des œuvres pour acquérir quelque chose, les œuvres du Seigneur qu'ils ont à garder, c'est croire en celui que le Père a envoyé, tout simplement. J'aimerais encore signaler quelque chose. Dans le livre des Actes, quand l'apôtre Paul arrive à Philippe, première ville d'Europe, de quelle ville est la première convertie? Lydie, la marchande de pourpre, elle est de Thyatire. Et quels ont été les fruits dans sa vie? Elle a cru au Seigneur, et qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Elle a ouvert sa maison à l'apôtre, tout de suite, les œuvres de Dieu, tout de suite, des bonnes œuvres, s'appliquant à l'hospitalité.
Je rappelle que la première Bible réformée en français a été imprimée à Neuchâtel par Olivetton en 1555 environ, prédicateur, homme de Dieu, cousin de Calvin. Alors on peut poser la question, avec quel argent doit-il tirer l'argent pour concevoir et réaliser cette œuvre grandiose en son temps? Tout préparer, tout réaliser, tous les éléments matériels, quels qu'ils soient, pour imprimer à Neuchâtel cette première Bible en français, un véritable trésor. Eh bien, chers amis, c'est par une œuvre trouvée dans cette église. Ce sont les pauvres croyants de la vallée du Piémont, pauvres gens pourchassés, persécutés, les autres qui sont à Thyatire, ce sont eux qui ont réuni les sommes considérables pour les mettre à la disposition de Calvin pour que nous ayons la première Bible en français. Voilà donc au milieu de tant d'œuvres dont se vante Thyatire, une œuvre par excellente que le Seigneur n'a pas manqué d'apprécier. Nous disons encore un mot dans ce domaine du chapitre à la fin. Je lui donnerai autorité sur les nations. Ça veut dire que loin de bénéficier d'une autorité quelconque, elle est mise au bas des nations, dans la condition la plus abaissée qui soit. Comment est-ce que ça se fait que dans l'Ancien Testament, Israël, ce que je vais dire se lie à cette expression. Vous allez voir la liaison, vous allez comprendre. Comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, Israël apostat est appelé une femme adultère? Comment se fait-il que dans le Nouveau Testament, la fausse église, Thyatire notamment, soit appelé plus loin, dans le même livre, une femme prostituée? Pourquoi pas une femme adultère, comme dans l'Ancien Testament? L'éloignement est tout aussi grand, la chute est aussi profonde, et la réprobation du Seigneur est aussi grande, bien davantage sans doute, sur l'Église, parce que l'Église a dépassé de loin ce qu'Israël a manifesté comme révolte contre Dieu, et le sort de l'Église responsable en jugement sera bien pire que celui d'Israël, si grave, si douloureux que soient les châtiments qu'Israël a connus. Une petite parenthèse pour le prouver, vous n'avez pas dans l'Ancien Testament d'empire qui a été brûlé au feu et duquel il n'est rien resté. De l'Empire babylonien, de l'Empire médo-perse, de l'Empire grec d'Alexandre, de l'Empire romain, ils sont restés des vestiges. Mais le dernier empire qui va succéder sur la scène, après avoir secoué le joug de cette femme funeste, sa fin c'est d'être brûlé au feu. Pour montrer donc que l'appréciation du Seigneur est bien plus grave encore sur l'Église que sur Israël. Mais pourquoi est-elle appelée dans l'Apocalypse une femme, non pas une femme adultère, mais une femme prostituée? Parce que précisément, les noces n'ont pas été célébrées encore. Tandis qu'avec Israël, le Seigneur avait noué une relation de mari à épouse. Et il dit d'Israël qu'elle est son épouse, que ce peuple, cette famille est son épouse. Tandis que l'apôtre pourra dire, je vous ai préparé comme une fiancée chaste pour son mari. Et c'est dans l'Apocalypse, à la fin, chapitre 19, que les noces de l'agneau sont célébrées. De sorte qu'au moment où Jean s'adresse à Thyatire, les noces ne sont pas encore célébrées. De sorte qu'avant les temps des noces, prématurément ce temps, cette femme s'est déjà dégradée. Elle est devenue une prostituée. Non pas d'une femme adultère, mais une prostituée. Avant même que les noces soient célébrées, elle s'est vautrée dans ce fumier du péché qui, à ce point-là, l'unissait à celui qui voulait devenir son époux. Alors, je lui donnerai autorité avec une verge de fer sur les nations. Méconnaissant le temps dans lequel cette autorité de l'Église s'exercera avec le Seigneur, puisque ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, cette femme a anticipé le temps des noces pour gouverner les nations. Mais alors le Seigneur dit, mais c'est un temps faussé, c'est un temps qui a été inventé par le diable, par les hommes. Il n'y a pas d'autorité confiée aujourd'hui aux hommes pour gouverner les nations sans que le Seigneur soit là. Nous n'aurons une autorité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes la balayure du monde, dit l'apôtre. Mais nous n'aurons une autorité dans le monde avec le Seigneur lorsqu'il apparaîtra. Colossiens 3, quand il apparaîtra pour juger, pour être manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés en gloire. Et c'est alors que nous allons recevoir l'épée. Aujourd'hui, chers amis, c'est la défaite, c'est l'humiliation. Ce sont les monitoires que nous avons déjà rappelés. Vous savez comment, pour donner un mot, comment les hommes religieux parlaient aux foules assemblées dans les églises. Ils disaient par exemple, « Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité ?» Il n'y avait pas la parole ouverte. Le prêtre seul pouvait l'ouvrir. Il disait, « Voilà ce que je dis dans la parole. Vous êtes tenus de répondre positivement, de ne rien sceller, de dénoncer sans pitié toute personne qui a osé ouvrir la parole de Dieu ou qui la détient chez elle. Qui se lèvera pour moi contre les méchants, contre les ouvriers d'iniquité ?» Vous pensez, chers amis, que sous la contrainte de cette position, de cette oppression religieuse, cruelle entre toutes, vous pensez que beaucoup d'hommes se dispensaient de répondre positivement à la question posée, qui va se lever pour moi contre le méchant, qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité? Eh bien voilà le sort de ces croyants qui nous ont précédés, il n'y a pas tellement longtemps. Mais quel bonheur pour eux, le Seigneur dit, lorsque je vais entrer en scène avec la verge, avec laquelle je vais briser les vases de poterie, et il n'y aura pas un seul tesson pour prendre un peu de feu ou pour ramasser un peu d'eau, je leur donnerai à ce moment-là l'épée avec laquelle ils vont dominer, ils vont régler le compte des nations qui les ont fait souffrir au temps de de l'attente patiente qui était dans leur cœur. Vous voyez, chers amis, le Seigneur va donner à ses chers croyants ce qui leur a été refusé et ce par quoi ils ont été opprimés, l'épée qui a été manifestée. Il n'y a rien de pire que l'épée, disait J.N.D., il n'y a rien de pire que l'épée dans la main d'un ecclésiastique. Nos chers croyants qui nous ont précédés sur le chemin n'éprouvaient aucun doute à cet égard. Rien de pire que l'épée aux mains d'un ecclésiastique. Mais demain, chers amis, Dieu va renverser les rôles. Et quel bonheur de penser que tout sera mis en ordre. Chacun sera appelé par son nom et chacun prendra sa vraie place.